devenu iconique au fil du temps. Nouveau film, Les Mignons et les Monstres. Est-ce que ça a répondu aux attentes?
Je suis allé à ce film-là à reculons. Je suis vraiment pas un fan des Mignons en tant que tel. Je trouve que les films sont très juvéniles, très faciles au niveau de l'humour. Fait qu'en allant là, j'étais comme, OK, ça sera pas bon, mais au moins, je vais l'avoir vu. Je vais pas pouvoir le critiquer, mais j'étais vraiment surpris. C'est un des films d'animation préférés de l'année. Parce que les Mignons et les Monstres, encore une fois, c'est l'histoire est très, très simple. Les Mignons réussissent à aller à Hollywood, veulent faire un film, puis recherchent des monstres. C'est ça l'histoire. Mais on met plein de références au cinéma dans ce film-là. Comme on reproduit des scènes dans des vieux films.
Des films classiques qu'on a connus.
C'est ça.
J'y vais vendredi, donc je suis contente de savoir que
c'est
un
bon
moment qu'on passe
très
avec
bon.
Nos enfants.
Il y a plein de caméos, de réalisateurs, d'acteurs qui apparaissent dans le film. Puis, moi étant un adulte, j'ai trouvé que les blagues qui étaient plus orientées cinéma, étaient un fan de cinéma en plus, on dirait que ce film était fait pour moi. J'ai adoré de A à Z. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est assez pour dire que c'est le meilleur film des Mignons que j'ai vu. Puis okay. Ça, c'est un accomplissement quand même notable, vu que j'étais allé là en pensant que ça allait être un mauvais film.
Tu voulais finir en nous parlant d'un film. C'est drôle parce que je n'ai tellement parlé dans les dernières, quasiment dernières semaines. Ça fait quoi, une semaine ou deux facile que je l'ai vu? Voicemails for Isabelle.
J'ai vu ta story, en fait, puis c'est ça qui me l'a fait écouter.
As-tu autant braillé que moi ou c'est moi le problème?
J'ai pas braillé, mais j'ai été touché. Premièrement, ça comme... Tu sais, les rom-coms comme ça, c'est très cliché. Je m'attendais à un film Hallmark un peu, là, qu'on voit à Noël, puis j'ai été surpris finalement. Tu sais, sans vouloir divulgâcher quoi que ce soit, la sœur de la fille a la fibrose kystique du personnage principal, puis malheureusement,
elle décède.
Puis pour comme se remémorer ses souvenirs, elle envoie des messages vocaux sur son ancien numéro de téléphone cellulaire. Puis comme dans la vraie vie, le numéro devient réassigné à quelqu'un d'autre après un certain temps. Puis l'autre personne écoutait secrètement les messages, de rechercher ses réseaux sociaux pour finalement s'arranger pour la rencontrer dans la vraie vie de façon artificielle. Puis après ça, il y a plusieurs déroulements qui arrivent. Mais ce qui m'a surpris, c'est que justement, c'est très moderne en tant que tel. C'est plus que deux personnes dans une petite ville se rencontrent, puis après ça, il y a des histoires qui arrivent. Le fait que, via les voicemails, il y a des personnes qui se rencontrent, j'ai trouvé ça un peu, en même temps, du côté négatif, c'est un peu du stalking, on s'entend. Là,
c'est un peu bizarre
dans la vraie vie si ça arrive. Je pense
c'est
pas
très
que
bizarre.
C'est très, très bizarre que la personne voyage pour rencontrer la fille de façon artificielle. Mais le côté sentimental, au niveau de la mort de la sœur, de A à Z, avec la scène finale qui est exceptionnelle.
Alors, repars-moi pas sa scène finale,
tabarouette. Je pense que pour ça que le film a fait discuter beaucoup. Mais ce côté sentimental-là, habituellement, on le voit pas dans les rom-coms plus traditionnels. Mm. Puis moi... ça m'a quand même... J'ai pas trouvé que c'est un film exceptionnel au final. C'est un très bon film, mais non, je m'en souviens encore aujourd'hui, je suis capable d'en parler, puis ça veut dire que ça m'a quand même marqué un peu.
Éric de Pop Culture Québec, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez faire des découvertes, avoir des critiques de films, souvent assez très, très rapidement avant que ce soit sorti, même des fois... rapidement après que ce soit sorti, des fois même avant que les films sortent.
Ouais.
Fait que Éric de Pop Culture Québec, merci beaucoup.
Merci.
Au retour, on va parler politique, on va parler économie aussi avec le vice-président affaires publiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Mathieu Lavigne. À peu près 48 heures après les nouvelles annonces de tarifs de Donald Trump, comment on se sent sur le terrain? Est-ce que l'incertitude nous fait encore bien, bien peur? Des questions qu'on aura pour M. Lavigne.
Pendant les vacances de la construction des fêtes de la famille de Saint-Émile au parc Réal-Cloutier. Profitez de nombreuses activités gratuites, dont jeux gonflables, spectacles canins, exposition de voitures, ateliers de danse, maquillage et une incroyable programmation musicale. Voyez sur la scène des jardins William Cloutier, Mia Tiner, Marie-Mé, Jérôme 50, Sarah Dufour, LBA Ben et DJ Champion. Zone VIP disponible. Les fêtes de la famille de Saint-Émile, c'est ce week-end, du 23 au 26 juillet au parc Réal-Cloutier. Entrée gratuite, on vous y attend.
Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Cet été, plongez dans les magazines Inspiration de La Presse Plus. Samedi, embarquez dans une virée aux chutes Niagara ou dégustez des boissons d'autrefois dans notre édition spéciale Nostalgie. La Presse Plus, toute l'info 100% gratuite. Disponible sur tablette et Mac.
En voyage, on prend la pause devant un paysage extraordinaire ou en compagnie d'un ami. Mais pourquoi ne pas en profiter pour faire une pause en cours de route aussi? Pour la sécurité de tous, il est recommandé de s'arrêter après chaque heure de route pour se reposer, s'aérer l'esprit et améliorer sa concentration. Prendre une pause dans un village relais, ça fait aussi partie du voyage. Découvrez plusieurs attraits et services au village avec un s-relais.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Hey, le Grand Royal Wallinac vous offre d'aller vivre une super expérience à seulement 15 minutes de Trois-Rivières, puis j'ai le plan parfait pour vous. Petit road trip à Trois-Rivières, vous en profitez pour souper au Ginco, qui est le restaurant du Grand Royal Wallinac. C'est un menu qui est diversifié, ça peut plaire vraiment à n'importe qui, la nourriture est excellente, puis après ça, ben vous pourriez assister à un des nombreux spectacles de musique ou spectacles d'humour présentés sur place directement au Grand Royal Wallinac. Pour finir la soirée, pourquoi pas tenter votre chance au blackjack ou peut-être même au poker pour quelques petites mains avant de revenir à Québec le soir même. C'est beaucoup plus proche que vous le pensez. Allez voir la programmation complète des spectacles au grandroyalwallinac.com.
Un burger blasé, un taco tout trempé.
Pas pire poche comme lunch, ça.
Petit plat, pas pire poche.
Qu'est-ce que tu dirais de 5 12 pouces classiques de Subway à moins de 10$ chacun?
Ça sauverait mon lunch.
En ce moment, les 12 pouces viennent à ta rescousse chez Subway. Dinde ou jambon ou végé délice ou...
16h09 à Boulevard 102.1. Antoninine Iaccarini, Mathias Turcotte et moi-même, Max Larouche, avec vous jusqu'à 18h. On fait le tour des gros dossiers d'actualité notamment. Et il faut dire que depuis 48 heures, on a beaucoup parlé dans l'actualité des fameux nouveaux tarifs de Donald Trump. Trompez-vous pas, c'est pas des tarifs en lien avec la fumée qu'on envoie aux États-Unis pour les empoisonner en s'occupant pas de nos feux de forêt. Ça pourrait venir dans les prochains jours. Ça pourrait venir plus tard, nous dit Donald Trump. Là, c'est vraiment d'autres tarifs qui sont liés notamment aux actions de nous, méchants Canada, d'entre autres, au Québec, je donne l'exemple, d'enlever l'alcool américain des tablettes. Ça, donc là, c'est une réponse des États-Unis envers notre réponse au Canada au premier tarif. Si je résume la situation en quelques secondes...
Si on comprend bien, parce que c'est pas toujours clair.
Ouais, c'est ça. On semble être là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui sera taxé, la fameuse nouvelle taxe de 50%? À peu près tout. J'ai envie de le dire de même, là, parce qu'on tire vraiment partout. Il y a des trucs qui frappent un peu plus l'imaginaire. Notamment, on a parlé beaucoup des bâtons de hockey. Puis là, finalement, semble-t-il qu'à la base des bâtons de hockey, il n'y en a même plus tant que ça qui sont faits au Canada.
Une certaine symbolique, peut-être.
Ben, je pense que c'est surtout ça qui a frappé.
Produits laitiers, meubles en bois et autres...
Alcool.
Produits fabriqués en bois, ouais, alcool, produits fabriqués en plastique, médicaments, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Pour parler de tout ça, Mathieu Lavigne, vice-président Affaires publiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Lavigne, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
À 48 heures après là, ces premières annonces-là, bon, au début, ça a comme été comme n'importe quelle annonce, j'ai envie de dire, de Donald Trump. Nouveau tarif, 50%, on n'avait pas de détails, on ne savait pas sur quoi, on ne savait pas pourquoi. Éventuellement, plus de détails sont venus. Les réactions sur le terrain au Québec là, depuis 48 heures, ça ressemble à quoi?
Ben effectivement, ça a été très surprenant. Au début même, on se demandait effectivement est-ce que c'était lié au fameux feu de forêt. Finalement, non, c'est lié à une espèce de justification comme quoi les États-Unis seraient discriminés par rapport à certaines politiques, dont effectivement le retrait des alcools américains, des tablettes, de la SAQ et de la LCBO. Donc, effectivement, c'était très surprenant. En même temps, ça fait maintenant un an et demi qu'on va de surprise en surprise avec cette administration américaine-là. Donc, on est surpris, mais en même temps... On a fini un peu par s'habituer à cette incertitude permanente-là. Le problème, c'est que parce qu'on est habitué à de l'incertitude, ça a quand même un effet sur les investissements. Les entreprises, en fait, déjà avaient nettement ralenti leur cadence d'investissement depuis un an et demi parce qu'elles ne savent pas dans quel univers elles vont se retrouver. Puis là, bien, pour celles qui sont affectées directement par les tarifs, pensons à des compagnies, par exemple, qui fabriquent des emballages. Si on a des produits qui est taxé, en fait, qui seraient menacés de tarifs dans bientôt 30 jours, ben pour eux, en fait, c'est existentiel parce qu'en fait, les quelques-unes qui pourraient être impactées, les tarifs de 50 %, c'est tellement élevé que ça serait pratiquement impossible de vendre sur le marché américain parce qu'il y a de la concurrence américaine. Alors que dans d'autres domaines très nichés, soit on exporte très peu de produits ou il n'y a pas vraiment de concurrence américaine, donc c'est les consommateurs américains qui vont payer au final parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, c'est quand même assez difficile de départager tout ça, mais on pense quand même, nos collègues de Desjardins ont sorti une étude à ce sujet-là, que 9 à 10% des exportations québécoises vers les États-Unis pourraient être touchées. Donc, le potentiel d'impact est très grand. En même temps, qu'est-ce qui peut se passer d'ici 28 jours? Il faut quand même garder une marge de manœuvre.
Parmi tous les tarifs qui ont été annoncés depuis un an et demi, c'est lesquels qui font le plus mal à l'économie du Québec, selon vos observations?
Bien, c'est sûr que quand on regarde les impacts sur le terrain en ce moment, quand on pense à l'industrie de la forêt et des meubles en bois, c'est sûr où on a vu le plus de décisions très difficiles que des entreprises ont dû prendre depuis maintenant plusieurs mois. On a vu carrément des fermetures, mais également des réductions de quart de travail, de la délocalisation de production. L'industrie du bois était déjà soumise à la crise perpétuelle du bois d'œuvre depuis des années. Combiner ça aux difficultés d'accéder à la ressource en forêt et à d'autres enjeux comme ça, eux, c'est eux qui le vivent le plus difficilement en ce moment. Donc, tout ce qui est industrie forestière, mais également pâte et papier, meubles, c'est probablement les plus durement affectés. Également, tous les transformateurs d'acier d'aluminium. C'est pas nécessairement les grandes alumineries elles-mêmes, mais les plus petites entreprises, les PME qui transforment des produits en acier aluminium. Les tarifs, pas les nouveaux dont on parle en ce moment, mais ceux de la vague d'avant qui affecte les produits transformés en aluminium et en acier, eux sont très durement impactés aussi également.
Le Canada qui n'aurait pas l'intention de riposter avec de nouveaux contre-tarifs, c'est ce qu'a dit le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. La position de la Fédération des chambres de commerce du Québec là-dessus, sur la position du fédéral d'imposer ou pas des contre-tarifs des États-Unis, c'est laquelle?
Bien, on comprend le réflexe de certaines personnes de vouloir répliquer, avoir des contre-tarifs ou des mesures de représailles. Mais ce qu'on a observé depuis le début de la posture de cette nouvelle administration américaine-là, c'est qu'en fait, les seuls contre-tarifs que le Canada a mis en place, leur premier impact, ça a été de faire mal à nos propres entreprises et d'obtenir aucun gain en retour. Si, à la limite, au départ, tous les pays du monde, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, s'étaient tous ligués ensemble pour mettre en place des représailles, peut-être que ça aurait pu avoir un impact. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que si on met en place des contre-tarifs, par exemple, sur des importations qui arrivent des États-Unis, ben, ce sont nos propres entreprises qui importent de ces produits-là américains et qui les transforment. Donc, c'est nos propres entreprises qui seraient les premières victimes d'avoir des représailles. Donc, nous, cette logique-là d'escalade, le Canada, il faut quand même être conscient que le Canada est un partenaire commercial nettement plus petit que les États-Unis et le Québec encore plus. Donc, à cette logique-là d'escalade, les chances qu'on soit gagnant sont quand même pas si élevées que ça.
Bon, donc vous, de votre côté, vous dites la solution, c'est pas nécessairement d'en rajouter puis de faire une escalade, vraiment une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc, les membres, les gens sur le terrain, qu'est-ce qu'ils demandent? Juste de l'aide du gouvernement, dans le fond? C'est ça qui est attendu par les entreprises en ce moment pour faire face à la tempête?
De l'aide, en fait, c'est même pas tant de l'aide parce que les quelques-uns qui sont impactés, c'est tellement existentiel qu'il n'y a pas vraiment d'aide financière qui pourrait les aider. Puis il y a déjà des programmes qui sont mis en place pour certains secteurs plus précis. Leur vraie attente, c'est que, on le voit là, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on met en place des représailles ou pas, l'administration américaine change sa politique, ses tarifs à tous les mois, à toutes les semaines pratiquement. Donc, l'attente des entreprises, c'est que nos gouvernements agissent sur les leviers que nous contrôlons. Par exemple, favoriser les produits des entreprises d'ici dans les contrats publics du gouvernement. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait un an et demi qu'on prend connaissance de l'importance d'acheter local et de miser sur nos propres entreprises. Mais les gouvernements sont encore très lents à agir dans ce domaine-là. Ne pas se nuire, par exemple, en mettant des restrictions sur les travailleurs étrangers temporaires. Nos entreprises qui ne sont pas affectées par les tarifs vivent les restrictions des travailleurs étrangers temporaires, donc doivent fermer des corps de production, même envisager de résilier des contrats parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre pour le faire. Donc, l'attente des entreprises, c'est que nos gouvernements, un, ne nuisent pas à ce qu'on fait déjà ici et les aident, mais par des contrats publics ou d'autres mesures qui ne sont pas de l'aide financière directe. L'aide financière directe, il n'y a rien qui peut pallier à 50 % de tarifs aux États-Unis quand tu exportes, par exemple, 75 % de ta production là-bas. Il n'y a rien qui va pouvoir t'aider. Il faut que tu trouves des nouveaux débouchés, soit ici au Canada, au Québec, ou sur des marchés internationaux. Par exemple, investir dans des projets d'infrastructure du port de Québec, du port de Montréal pour débloquer des nouveaux marchés, ça, c'est une mesure structurante pour nos entreprises.
On parlait d'imprévisibilité. On s'habitue à l'imprévisibilité. Bien, les marchés, en fait, s'habituent un peu à l'imprévisibilité américaine. Mais nos gouvernements créent aussi une imprévisibilité. Là, vous parlez de grands projets, c'est sûr que ça m'accroche. On fait du avance-recul, on annonce plein de choses en même temps. Là, ça va être la campagne électorale. D'avoir des politiques industrielles ou de grands projets qui sont plus prévisibles, qui sont plus costauds, ça, est-ce que ça pourrait contribuer à aider les entreprises à passer à travers la tempête?
Bien, la prévisibilité, c'est probablement la chose la plus importante dans les décisions d'affaires des entreprises. C'est pour ça que la crise aux États-Unis leur fait mal en ce moment, parce que c'est d'abord et avant tout l'imprévisibilité dans les tarifs ou les accès qui leur fait mal. Même chose pour les politiques de nos gouvernements. Ça prend une vision beaucoup plus structurée de notre économie. Par exemple, c'est pour ça qu'on propose et qu'on recommande qu'il y ait une politique industrielle québécoise claire, c'est-à-dire identifions c'est quoi nos forces, c'est quoi nos secteurs stratégiques et concentrons les actions du gouvernement, de la société en général, du milieu économique dans ces secteurs-là où on sait qu'on est capable de compétitionner sur les marchés internationaux.
Il n'y en a pas de politique industrielle claire en ce moment au Québec?
Non, à notre avis, non. Il y a des actions qui sont menées dans différents domaines où ça change selon l'ère du temps, mais il n'y a pas une politique structurée sur nos principaux secteurs, nos principales forces. Et pour y aligner, là, c'est à la fois les politiques d'investissement, mais aussi les politiques de main-d'œuvre. C'est quoi les secteurs prioritaires où on doit miser sur la formation de la main-d'œuvre, le développement, l'immigration? Trouvons nos forces, nos créneaux. On ne sera jamais expert dans tout. Aucune société, aucune économie ne l'est. Mais ça prend cette vision-là où on peut articuler toutes nos politiques autour d'une vision industrielle, parce que ça va répondre à l'enjeu de prévisibilité. Il faut donner à nos entreprises des signaux clairs. Si vous êtes dans tel créneau, par exemple, on dit que la défense en aérospatiale, par exemple, on est très fort, ou dans le secteur, je ne sais pas moi, de la forêt, on est très fort, bien, misons sur ces secteurs-là où on est particulièrement performant et agissons en conséquence.
Comment expliquer qu'en 2026, au Canada, ce soit encore aussi compliqué dans bien des domaines de transiger entre les provinces? Et là, hier, il y a comme une annonce par rapport au marché de l'alcool, où là, on comprend que le Québec devrait embarquer dans cette annonce-là, où à la base, c'est quand même une majorité de provinces qui embarquent. Mais comment expliquer que... Puis pourtant, ça fait des années, me semble, qu'on en parle du fait que on est dans un grand pays... On pourrait en profiter pour faire des échanges entre nous. On comprend qu'à la base, il y avait des raisons pourquoi on voulait protéger certains secteurs puis de garder ça à l'intérieur d'une même province. On le comprend maintenant dans le nouveau contexte. Comment ça, c'est long de même avant de les enlever, ces barrières-là entre les provinces?
Oui. On a d'ailleurs, avec nos collègues des chambres de commerce des autres provinces et territoires, souligné l'annonce d'hier là, sur le commerce de l'alcool. C'est un pas en avant. L'alcool, c'est souvent un peu le symbole, mais en fait, c'est pas ça qui, pour l'économie, est le plus important. Il y a tellement eu, avec le temps, d'évolutions de réglementations qui ont rendu les provinces différentes les unes des autres. C'est ce qui rend le commerce difficile. Je pense notamment à l'industrie de la construction. Les codes du bâtiment sont différents au Québec de l'Ontario. Pourtant, on construit tous les deux des bâtiments dans des climats et des contextes relativement similaires. Comment ça, on n'a pas une certaine harmonisation dans ce domaine-là? Il y a plus du double de corps de métier en construction au Québec par rapport à l'Ontario. Pourtant, encore une fois, on construit des bâtiments dans un contexte similaire, mais on a évolué de manière différente. Dans le cas du Québec, on a complexifié beaucoup, notamment dans ce domaine-là, mais on est rendu, là, je crois, à prendre conscience du fait que l'harmonisation avec d'autres provinces, un des gros intérêts, c'est que nos travailleurs et nos entreprises peuvent aller chercher des contrats ailleurs et compétitionner. On a une industrie, c'est de la construction, du génie conseil, qui sont très performantes au Québec, mais pour ça, il faut pouvoir harmoniser les règles pour pouvoir être présent ailleurs. C'est présent dans plein d'autres domaines, en agroalimentaire, dans le transport routier. Il y a également des règles qui diffèrent de province en province. À chaque fois, là, dans l'absolu, ça vient d'un bon fond. Il y a une bonne raison pourquoi ces règles ont été mises en place. Mais avec le temps, c'est devenu tellement complexe que pour des entreprises, c'est aussi compliqué d'aller développer le marché d'une autre province canadienne que d'aller développer le marché américain ou le marché français. Donc, pourquoi ne pas aller là où il y a plus de consommateurs potentiels? Donc, il y a vraiment une importance de réduire ces barrières-là pour développer des nouveaux marchés au sein même du Canada.
Mathieu Lavigne, vice-président Affaires publiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Un gros merci pour votre temps.
Merci de l'invitation.
Bye-bye.
Le retour de Boulevard 100%.
À Boulevard 102.1. 418-971-1021, Sylvain qui écrit « Accident 40 Ouest, hauteur chemin du lac Sarfoul jusqu'à Duplessis. » En effet, là, vraiment pas facile dans ce secteur-là actuellement. Sinon, sur la route, si on fait un petit tour, là, la 20 Ouest à partir de mi-chemin, je vous dirais, entre route du président Kennedy et chemin des îles jusqu'à Taniata, le ralentissement habituel. Secteur des ponts, ça va assez bien. Par contre, capitale, direction Est entre le boulevard Masson et l'approche de Laurent. Ancienne, c'est pas pire jamé, tout comme par l'autre bord entre Henri Bourassa et Laurentienne au rouge aussi. Robert Bourassa, direction nord entre Charest et la capitale. Là aussi, on a quand même des problèmes considérables. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit sur la route ou des réactions. 418-971-1021. 23 degrés, c'est ce qu'on a à Québec. 26 au ressenti là, avec l'humidex. Ça descend tranquillement, pas vite. Ce soir et cette nuit, on va aller jusqu'à 11 degrés. Fait que ça va descendre pas mal. Puis c'est des belles journées qui s'en viennent. Là. Demain, il y a un 40% de possibilité d'averse avec 22. C'est comme la plus laite journée des 5 prochains jours parce qu'à part ça, vendredi 26, gros soleil. Samedi 28, soleil. Dimanche 28, alternance soleil-nuages. Puis durant les deux premières heures du show, lundi, Environnement Canada nous prévoyait de la pluie. Ben maintenant, on nous dit que c'est de l'alternance soleil-nuages avec 26 degrés. Fait qu'on a même gagné notre lundi de beau temps jusqu'à maintenant. Mathias Turcotte dans l'actualité. C'est quand même une bonne journée pour un mercredi de première semaine des vacances de la construction.
Ça roule et je commence avec un petit tour des faits divers. Deux adolescents de 14 et 15 ans et un homme de 39 ans qui ont été arrêtés à la suite d'un meurtre sur la Côte-Nord. C'est lundi soir qu'un homme dans la vingtaine a été retrouvé mort. Une enquête a révélé que l'homme avait été abattu par balle et l'a mené à l'arrestation des trois individus, dont deux mineurs. Deux agents de la Sûreté du Québec ont été reconnus coupables de divers manquements à leur code de déontologie. Il faut remonter en février 2024 à Joliette. Les deux hommes veulent procéder à l'arrestation d'un homme de 61 ans. Ils se trompent finalement de demeure et interviennent auprès de Jean-François Beaulieu, un homme de 73 ans. L'homme s'identifie et, avec leur autorisation des policiers, on l'autorise à aller chercher une pièce d'identité. Lorsque M. Beaulieu s'est retourné, les agents qui l'ont maîtrisé au sol et l'ont menotté. L'homme a été blessé à l'épaule gauche, coupé à la tête. Il a dû être transporté à l'hôpital. Selon les dires de ses enfants, cette opération-là qui a laissé des traumatismes profonds chez l'homme de 73 ans. Jean-François Beaulieu, qui est décédé d'un accident vasculaire cérébral au cours quelques mois après l'intervention. Aucun lien entre les deux événements n'a pu être fait, mais on va connaître les sanctions pour les deux agents au cours des prochaines semaines, probablement. Une ex-éducatrice de Sainte-Brigitte-de-Laval, Cathy Jonf, qui a été reconnue coupable d'homicide involontaire sur un bébé de 10 mois, veut porter sa cause en Cour suprême. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison en février 2024 par la Cour du Québec. On a déterminé que la femme, en mai 2018, avait secoué la petite Eliana Linto, ce qui lui avait infligé des blessures mortelles au cerveau. Elle souhaite porter sa cause à l'instance supérieure parce que, selon elle, son avocat a omis de présenter une preuve déterminante, une déclaration vidéo d'un enfant de 5 ans enregistrée le lendemain de la mort de la petite de 10 mois. Un candidat libéral est placé dans l'embarras en raison de propos durs tenus envers certains militants péquistes en février. Puis là, j'ai fouillé dans le Journal de Québec, puis on a ressorti d'autres de ses propos.
J'y ai tombé dessus aussi.
Donc tout d'abord, initialement, on lui reprochait justement en février dernier, alors qu'il n'était toujours pas candidat libéral, Michel Savard, qui avait traité le chef du PQ d'un être haineux et mégalomane. Il a ensuite affirmé que ceux qui le suivent sont des petits nazis sans envergure. Et ce qui est intéressant, c'est que Michel Savard a présenté ses excuses sur sa page Facebook et a avoué lui-même que d'autres de ses propos pourraient ressortir prochainement. Eh bien, on a d'autres de ses propos, d'autres screenshots qui ont été pris de ses commentaires Facebook.
Me laisses-tu le plaisir?
Vas-y, tu peux le citer, Maxime.
Il y a un commentaire sous un de ses posts là, où on lui dit « Hey, tu sais que ce post est un appel à la terreur? » Et lui répond, Michel Savard, « Oui, et je l'assume. Les hosties de laïcs peuvent bien aller se faire foutre qu'ils viennent débattre avec mon bat de baseball. »
Ben voyons donc. Là, j'ai une question pour vous, les gars. Parce que je reviens une insulte en arrière. Être un nazi sans envergure, à votre avis, est-ce que c'est pire qu'être un nazi
avec
qui a de l'envergure?
Bon questionnement. Débattre avec ou sans bâton de baseball?
Ben, moi, je préfère sans, personnellement. Toi
et Max, t'es le péquiste, fait que toi, t'en as pas. Puis dans cette situation-là, c'est moi qui en ai. si on écoute Michel Savard.
Là. Mais là, on sent. Tu sais, t'avais la base, t'as eu les excuses avec la belle transparence de dire ça se peut que vous trouvez d'autres choses. Là, ça. Je l'assume, les hosties de laïcs peuvent bien aller se faire foutre qu'ils viennent débattre avec mon bat de baseball.
Ouais, est-ce que
là, c'est assez, selon toi, pour que le Parti libéral du Québec lui montre la porte? Parce qu'à date, on comprend que le Parti libéral a l'intention de le garder comme candidat.
Ben, oui, c'est assez. C'était assez quand tu traitais le monde de nazi, de toute façon.
Oui.
Je veux dire, c'est parce que quel genre de député tu penses que ça fait?
À la base, je pense que ça ne fera pas un député.
On s'entend. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même un honneur et je veux dire, il y a quand même une aura autour des institutions puis de vouloir servir le public.
Moi,
je pense
qu'il y a un décorum.
Un décorum, mais un respect de base de l'autre et un niveau de débat que je pense que ce monsieur ne possède pas. À moins qu'il l'ait là, complètement changé du tout au tout depuis qu'il a écrit ça.
Ça fait juste quelques mois.
C'est ça, ça fait pas 22 ans.
Mais
là,
l'histoire du bat de baseball, là, ça c'était en 2018.
Mais ça fait, tu sais, ça fait 8 ans, mais même là on incitait à la violence.
Trouver un statut gênant, c'est tel que tel. Appels à la violence.
Passant, Michel Savard, en plus de ces propos-là qui n'ont pas de bon sens, là, c'est un monsieur qui était à base un péquiste, souverainiste, qui est passé à Québec solidaire. Et au moment où Dominique Anglade était chef du Parti libéral, c'est là qu'il est devenu libéral. C'est déjà quelqu'un qui, en tant que candidat, pour reprendre ses propres propos, ça me semble être un candidat sans envergure.
Bon, écoute, j'ai rien à ajouter à ça. Je suis d'accord.
Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney qui a convoqué le groupe d'intervention en cas d'incident.
Dernière affaire.
Ah, vas-y donc.
En juillet 2014, il traitait les libéraux de couillons. Pour un jeu de mots, couillard.
Ouais, ouais.
Il disait « Les libéraux de couillons sont moins bruyants, mais tout aussi dangereux. » À ce moment-là, je ne sais pas trop de quoi il parle. On voit le genre de bonhomme. Là.
Mais ça marche pas. Là.
Non, c'est... D'ici la fin de la journée, il faut que Charles Milliard mette ses culottes puis dise « Monsieur Savard, merci beaucoup d'avoir voulu vous impliquer. On va trouver un staffer pour mettre comme pancarte. »
Mais comment ils ont pu penser que c'était une bonne idée à la base?
Et puis là, c'est juste qu'on a sorti à la date. Là. Ouais.
On continue de fouiller, puis on fera un petit follow là-dessus tantôt.
Michel Savard, mesdames, messieurs.
Le Parti libéral va peut-être prendre le cas de Michel Savard puis le mettre dans la petite boîte à réflexion à côté de la poursuite contre Paul Saint-Pierre-Plamondon. Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney qui a justement convoqué le groupe d'intervention en cas d'incident, un groupe qui est composé de ministres de hauts responsables afin de se pencher sur la situation liée aux feux de forêt partout au Canada qui explosent en Colombie-Britannique encore. L'Ontario où 12 nouveaux brasiers sont apparus. disparu. On va donc suivre ça de près au cours des prochains jours. Et je termine en politique américaine. Tout d'abord, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, aujourd'hui, qui a commenté la menace des tarifs douaniers des États-Unis de 50% en disant que le Canada n'a pas nécessairement menacé les États-Unis de représailles pour le moment. On attend toujours la réaction du Canada sur ces propos-là. Mais selon ce qu'on semble voir en ce moment, on ne devrait pas avoir de contre-tarifs de la part du Canada. Et je termine avec le tribunal de New York qui a annoncé une date fixée pour le procès de l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro. Ça va être fixé le 1er juin 2027 pour trafic de drogue du côté de New York.
Merci beaucoup, Mathias. Il y a quelqu'un qui a peut-être perdu sa job chez le Heat de Miami parce que la chaîne YouTube de l'organisation a momentanément affiché un live à venir titré « Conférence de presse de présentation de LeBron James. L'affaire ». C'est que LeBron James, il n'a pas eu d'annonce à la date qu'il avait signé avec une équipe. Il est encore agent libre. Fait que là, il y a des fans qui sont tombés là-dessus puis qui ont comme... Tu sais, mettons, là, en termes de hockey, c'est un peu comme si Sidney Crosby tombe agent libre puis qu'il y a une équipe, mettons peut-être le Canadien, que là, tu es sur la page YouTube du Canadien puis tu vois... Parce que tu peux faire ça, tu sais, prévoir un live. Puis tu vois, tu sais, mettons, live à venir à 10h aujourd'hui... conférence de presse de présentation de Sidney Crosby.
Ça attire l'attention.
Ce serait la folie à Montréal.
Mais oui, puis tu sais, LeBron James, c'est une super vedette, c'est un des plus grands joueurs de basket de l'histoire.
Puis à l'époque, il était du côté de Miami, puis si je me trompe pas, mener Miami à des championnats.
Et donc là, c'est la folie au poignet, ça a commencé à se propager en fou. Rapidement, l'organisation a dû réagir. Un porte-parole a dit que c'est une erreur, qu'on se préparait simplement au cas où on signait LeBron James. L'agent de LeBron James a dit « mon joueur, mon client n'a pas encore pris sa décision par rapport à où il allait jouer ». La saison prochaine, fait qu'est-ce que c'est vraiment une erreur de on se préparait au cas où peut-être? Parce que les équipes font ça, là. T'sais, dans le monde du sport, oui, t'as des petits insights, mais souvent, les équipes de médias sociaux savent pas nécessairement ce qui se passe dans les hautes sphères parce que tu veux...
de l'avance puis prépare plusieurs choses. Ou...
Exact, parce que du côté de l'état-major, tu veux éviter des fuites tout le temps. Tu veux qu'il y ait le moins de gens possible au courant quand tu t'en vas faire un move. Fait que tu peux pas dire nécessairement « Hey, on est sur le bord de signer LeBron James, faudrait préparer telle affaire. » Du côté des... Puis encore là, je parle en général, il y a des équipes, ça change tout le temps selon les organisations. Il y a des équipes où il y a une personne aux médias sociaux qui est main dans la main, mettons, avec le directeur général ou le président, puis qui sait tout. Mais en général, l'équipe médias sociaux, des fois, est au courant pas longtemps avant le reste du monde.
Puis habituellement, quand on signe un contrat dans le monde professionnel, surtout quand c'est un gros nom comme ça, on sort presque immédiatement dans les médias pour dire « c'est finalisé, on a signé le contrat ».
Donc, à suivre, parce que dans les rumeurs, un retour avec le Heat, ben c'est là depuis un bout de temps. Il y a d'autres équipes. On va suivre ça. Du côté des Blue Jays de Toronto, au baseball, ça va mal. Ça va très mal. Défaite de 12-2 hier face aux Rays. On va tenter de mettre fin à cette séquence difficile ce soir face aux Mime Rays. Et pour nos capitales de Québec, programme double face aux Miners de Sussex County aujourd'hui. Premier match qui débutait dans les dernières minutes. Vous écoutez le retour à Boulevard 102.1, 88-971-102.1, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Au retour, Antonine Iaccarini nous parle d'un gros dossier politique, celui de Churchill Falls. Est-ce que la première ministre Christine Fréchette a la légitimité d'arriver comme ça quelques semaines avant la prochaine élection provinciale avec un nouveau deal avec Terre-Neuve concernant Churchill Falls? On en jase.
Le retour du Canada.
Le chantier naval Davie recrute à Lévis. Encore des centaines de postes à combler. Peintre, électricien, assembleur, contremaître, on a besoin de toi. Davie, c'est le plus grand chantier naval au Canada, puis on manquera pas de job parce que le carnet de projet est rempli jusqu'en 2040 et nos conditions de travail sont solides. Des avantages multiples, assurance complète, santé, invalidité, régime de retraite, événement d'entreprise, programme d'aide aux employés, télémédecine, congé payé, 2 jours mobiles, 2 jours pour obligation familiale, congé payé durant les fêtes qui quand on ferme le site. Ambiance de travail positive et soutenue par l'employeur. Stationnement gratos sur place. Des horaires de travail qui vous donnent plus de temps personnel. Des semaines de 4 jours, 10 heures. De soir, c'est 4 jours, 10 heures avec prime. Et mon option préférée, je t'avais de lâcher à la radio, c'est pas drôle. Là. Fin de semaine, des semaines de 3 jours, 12 heures, payées 40 heures avec prime. Ose le grandiose pour ta carrière. Postule davyrecrute.ca.
Vous.
16h42, vous écoutez le retour de Boulevard 101 avec Antonine Iaccarini, Mathias Turcotte et moi-même Max Larouche. On sera votre trio pour ce qui est de la prochaine semaine, de lundi à jeudi, avant que lundi d'après, au début du mois d'août, la gang de Gravel dans le retour soit de retour pour vrai avec Denis, avec Véro, avec Audrey. Audrey, d'ailleurs, qui devrait revenir faire une petite saucette demain avant de vraiment partir en vacances.
Espérons-le.
Aujourd'hui, c'était plus une petite journée de, entre guillemets, vacances forcées, je vais le dire comme ça. Mais on devrait être capable de retrouver Audrey et d'avoir un beau jeudi ensemble demain. Il y a un gros dossier d'actualité qui, depuis quelques heures, fait de plus en plus réagir. Puis c'est un dossier qui est assez complexe, puis on en parle, mais des fois, j'ai l'impression qu'on comprend pas à quel point c'est important. Tout ce qui est les négociations avec Churchill Falls, pour Churchill Falls, avec Terre-Neuve, on avait un deal dans les dernières années. Terre-Neuve a voulu se retirer parce que là, finalement, on n'était pas content du deal qu'on avait fait. Deal dans lequel, déjà, le Québec faisait des concessions.
Ben oui.
Et là, ben Christine Fréchette, la première ministre du Québec, non élue à ce poste-là par les Québécois, mais élue à ce poste-là par quelques milliers de membres de la CAQ, pourrait, dans les prochains jours, les prochaines semaines, en arriver avec un nouveau deal.
Parce que là, c'est le Conseil de la Fédération en ce moment. Donc là, on parle beaucoup de nos relations avec les autres provinces. On a vu qu'il y avait un accord sur l'alcool qui était signé cette semaine. Ça permet au premier ministre aussi de se coordonner par rapport aux tarifs de Trump. Mais il y a un dossier interprovincial qui traîne et qui traîne et qui traîne, et c'est celui de l'entente sur Churchill Falls avec Terre-Neuve-Labrador. Je pense qu'on ne réalise pas au Québec à quel point les Terre-Neuviens sont fâchés par rapport aux Québécois, puis par rapport à l'ancienne entente sur Churchill Falls.
Puis, dans un certain sens, avec raison.
Ben oui, mais on les a totalement... Ben, là, je dis, on les a arnaqués.
C'est
des péquistes qui nous écoutent. Il y en a qui vont nous appeler pour dire qu'il y avait rien qui n'a pas nous volé le Labrador. Là. Bon. Il y a toujours plusieurs côtés à une médaille, mais payer l'électricité à un prix complètement ridicule, le 0,2 cents le kilowattheure, ils ont l'impression, et c'est la réalité, de s'être fait avoir pendant des années. Pour le Québec, c'était de l'électricité à très bon prix, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est sûr que peu importe l'entente qu'on allait signer pour la suite des choses avec Terre-Neuve-Labrador, ça allait être une moins bonne entente pour nous.
C'était
déjà
inévitable.
À la base. Là. C'était inévitable comme tel.
Si on se ramène dans l'histoire, le deal, puis on n'ira pas dans tous les détails, mais c'était... on vous achète l'électricité vraiment pas cher, mais on prend les risques de construction de barrage.
Oui, puis le Terre-Neuve n'avait pas énormément d'autres débouchés pour leur électricité de toute façon. Le fédéral s'en est mêlé. Bref, ils ont l'impression de s'être fait passer un sapin. Et l'histoire a démontré que c'était le cas. Puis en plus, au fur et à mesure des années, les besoins énergétiques de tout le monde ont énormément augmenté. Cette électricité-là vaut encore plus cher si tu regardes avec les yeux d'aujourd'hui comme tel. Donc, François Legault, quand il était premier ministre du Québec, voulait régler cet enjeu-là, même si l'entente était bonne jusqu'en 2041, en théorie. Mais considérant que... plus on s'y prend d'avance pour renégocier cette entente-là, plus on avait une chance de trouver le délicat terrain d'entente où on aurait l'impression que c'est vraiment gagnant-gagnant. Puis encore une fois, gagnant pour le Québec, ça ne veut pas dire d'aller rechercher le même tarif. Là.
C'était pas
ça l'objectif comme tel. Et on est arrivé avec une entente de principe avec l'ancien premier ministre, donc François Legault et Andrew Furey, qui étaient premier ministre à ce moment-là, en arrive à une entente de principe. que je ne vais pas vous détailler ici, que vous pouvez trouver assez facilement, mais que moi et beaucoup d'observateurs trouvaient que ça avait bien de l'allure comme entente, notamment parce qu'on allait chercher encore plus d'énergie comme telle avec la construction d'un nouveau barrage duquel Hydro-Québec aurait la responsabilité, d'une deuxième centrale, pardon, et d'un nouveau barrage à Gull Island. Donc, pour les besoins énergétiques du Québec, très intéressant, des tarifs encore avantageux, même si on n'est pas évidemment dans les tarifs ridicules de 1969. Mais la politique étant ce qu'elle est, Terre-Neuve tombe en campagne électorale et le chef conservateur, adversaire de Andrew Furey, dit « c'est pas bon, t'entends-là. C'est pas assez bon. Moi, je vais tout revoir ça. Je vais mettre un comité qui va réanalyser cette entente-là, puis j'exclus pas de faire un référendum sur la question. »
Et ça, politiquement, pour aller chercher l'émotion des Terre-Neuviens qui sont en sac. Après nous autres encore, ça a été payant.
Oui, donc nouveau premier ministre, M. Wakeham, gagne son élection. Et là, ben, on retombe un peu à zéro. Le gouvernement Legault, puis ensuite le gouvernement Fréchette, disaient constamment dans leur message clé que ça ne les inquiétait pas, qu'il y avait vraiment moyen de trouver une entente et tout ça. Mais il fallait trouver des éléments supplémentaires à leur donner pour que M. Wakeham se sauve la face. Là. Il ne peut pas revenir et dire « ouais, finalement, j'ai signé la même entente ». Ça ne marchera pas, évidemment, politiquement. Il y a un rapport qui est sorti le printemps dernier qui a effectivement analysé cette entente-là, qui a pointé certains éléments qui étaient à corriger. Donc là, ça donnait certaines pistes de réflexion et de négociation. Ça, c'est la mise en contexte. Maintenant, on est à un petit peu plus d'un mois du déclenchement de notre campagne électorale. Donc, c'est fort bien ce qui se passe du côté de Terre-Neuve. M. Wakeham a ses propres impératifs. Mais là, nous aussi, on s'en va en élection. Est-ce que Mme Fréchette a vraiment la légitimité de nous dire cette semaine, ben moi, ça se peut là, que je signe une entente de principe cette semaine avec Terre-Neuve-Labrador.
Rappelle-nous, l'entente est valide jusqu'à quand?
2041.
Et là, ça presserait pour Christine Fréchette de signer ça là.
Ben c'est ça. Puis en quelque sorte, moi, je pense qu'elle doit subir de la pression de François Legault, parce que c'était un peu le legs de François Legault, cette affaire-là.
Tu penses qu'il y a le nez là-dedans?
Je suis sûre. Et le plan énergétique d'Hydro-Québec, eux, ils font des prévisions, des planifications pour nos besoins en énergie. Puis évidemment que le plan prend en considération ce deal-là qui semblait chose faite là, quand l'entente de principe a été signée.
Mais est-ce que tu penses que Christine Fréchette ressent un peu le besoin aussi de se remettre au devant de la scène sur le plan économique et énergétique façon positive? Parce qu'elle a perdu beaucoup de plumes sur cet aspect-là au cours des dernières semaines, j'ai l'impression.
On se rappelle le rapport de la VG sur la filière batterie. Disons que son étoile a pâli au niveau économique. Elle a vu se positionner économiquement. C'est sûr que d'arriver puis de dire « je signe un deal », ça fait très premier ministre, ça fait quelqu'un qui règle des dossiers. Mais là, c'est comme si le timing est un peu dépassé. Honnêtement, si tous les partis politiques de l'Assemblée nationale étaient unanimes sur la question, ce serait autre chose. Mais le PQ n'est pas très chaud à l'idée de signer l'entente telle qu'elle est là. Moi, je suis en désaccord avec eux. Je pense que c'est une bonne entente. Mais si vous allez revoir les publications et les réactions de Paul Saint-Pierre Plamondon et des députés péquistes, on nous dit qu'on ne doit rien aux Terre-Neuviens puis qu'il faut arrêter de se conter des histoires, qu'il y a un bout de territoire qui nous appartient puis que dalala. Là.
Mais par contre, ça veut dire que l'enjeu que Christine Fréchette met du devant de la scène, c'est justement qu'il faut que je règle cette entente-là avant de quitter. Parce que sinon, ça se peut que ça tombe à l'eau si c'est un autre gouvernement qui reprend.
Absolument. Mais quand tu veux signer un deal à la va-vite, d'un coup qu'un autre parti défasse quelque chose, ça te démontre et ça met en lumière l'enjeu démocratique qui est soulevé ici. Moi, je pense qu'elle avait jusqu'à la fête nationale pour signer des ententes aussi engageantes et importantes que ça. Puis déjà, on la critique un peu pour faire des annonces avec des sous, avec nos sous en ce moment, alors qu'on est clairement en pré-campagne électorale. Là, c'est pas une mince affaire. Puis je vous dis ça, j'ai un enjeu au niveau de la légitimité puis des aspects démocratiques. Moi, je suis favorable à ce qu'on signe cette entente-là. J'ai pas vu c'est quoi les détails qui ont changé, mais honnêtement, j'ai assez confiance que ça pourra virer complètement bout pour bout. C'est une bonne entente. On a besoin de cette énergie-là. Il faut qu'on fasse plus de commerce. On a besoin entre les provinces et on a besoin de grands projets pour renforcer notre économie. C'est juste du bon, tout ça. Mais est-ce qu'on peut s'engager puis faire des signatures à 4 semaines du déclenchement des élections quand il y a un débat entre les partis politiques. Disons que c'est délicat.
Tu parlais tantôt de François Legault. Tu dis « je suis sûr qu'il y a de la pression de François Legault ». Dans les dernières semaines, il y a eu certaines annonces où on voit que Mme Fréchette et Mark Carney sont pas mal copains-copains.
Ouais.
Puis qu'on dirait que Mark Carney, il trouve qu'il y aurait peut-être un avantage à ce que Christine Fréchette regagne des plumes au Québec et reste peut-être au gouvernement. C'est mon impression. Sens-tu qu'il pourrait y avoir une pression de Mark Carney du fédéral envers Christine Fréchette pour lui dire hey, « est-ce que c'est bon pour toi? » puis qu'eux autres pourraient peut-être aussi jaser avec Terre-Neuve puis se mettre les mains là-dedans alors que c'est zéro leur juridiction.
C'est pas leur juridiction, mais pense au projet économique que Mark Carney veut faire au Canada.
Ben, il est en train de faire
ça
que ça devient...
Oh,
oui.
Parce qu'on parle de projet d'intérêt national, c'est un projet d'intérêt national. C'est clair et net. Donc, lui... C'est sûr qu'il est tenté que ça fonctionne. Même, il est allé assez loin pour dire qu'il pourrait s'en mêler. Là. Il l'a dit publiquement qu'il souhaitait que ça se règle. Moi, je pense que Terre-Neuve-Labrador ne va pas aimer ça, que le fédéral se mêle de ça, surtout avec les cicatrices de ce qui s'est passé en 1969. Et tu disais, Mark Carney, peut-être qu'il aimerait ça que ce soit Christine Fréchette qui gagne la prochaine campagne électorale. Moi, je pense que, puis je dis hypothèse, je suis pas dans sa tête, je pense que Mark Carney aimerait bien que ce soit les libéraux qui gagne la prochaine campagne électorale. Parce qu'il y a moins de chicanes avec Ottawa quand c'est les libéraux. On se met à pleuvoir, c'est facile, c'est le fun. Mais qu'une Christine Fréchette qui réussit à battre le PQ sur son propre terrain avec un vote nationaliste plus mou, on s'évite un référendum, je pense que ça fait bien son affaire. Puis c'est pas pour rien qu'on a vu des belles annonces avec le fédéral dans les derniers mois.
Merci beaucoup, Antonine. C'est terminé pour Michel Savard dans
voilà.
dans cette campagne électorale.
On l'a vécu ensemble.
Qui n'est même pas lancée encore. Le Parti libéral du Québec, donc, qui met dehors son candidat dans Gouin. Dans les prochaines minutes, on reviendra là, avec l'historique qui a mené à ça. Ça s'est fait relativement vite. Là. On a commencé à en parler dans les dernières heures. Puis là, finalement, ben, y a des couches puis des couches qui se sont rapidement ajoutées. Mais dans les dernières minutes, le Parti libéral du Québec confirme que son candidat, qui laissait des belles factures sur les réseaux sociaux, ne sera finalement pas candidat dans Gouin.
Puis t'as dit, Max, relativement rapide. J'ai envie de dire, pour le Parti libéral du Québec, on peut dire que ça a été très rapide.
Oui. Mais en même temps, ça aurait dû l'être plus à mon bien humble avis.
Moi, ce que je retiens, c'est que traiter des péquistes de nazis, c'est pas suffisant pour être exclu candidat.
Faut menacer
avec
un bat de baseball.
Ouais, faut entrer des battes de baseball là-dedans, vraisemblablement.
Colin.
Hey, avant qu'on en reparle de ce dossier-là dans les prochaines minutes, je veux vous gâter. Il fait très, très, très beau dans les prochains jours. Fait que je trouve que le timing est excellent parce que cet été, à Boulevard, on vous invite à profiter de la saison des terrasses comme il se doit du côté de la cour arrière de Lévis. Puis on aime ça, vous gâter, qu'on vous envoie 5 à 7 avec votre gang de chums en direct du parc du Rigolet à Lévis. Un verre à la main, les pieds dans l'eau, de la bonne musique live, vous profitez des bassins rafraîchissants, puis vous allez en avoir besoin, j'ai l'impression, dans les prochains jours au soleil. Il y a des soirées d'humour, des soirées country aussi, et plus encore, pour gagner votre 5 à 7 pour 4 personnes avec consommation, vous nous textez dès maintenant au 418-971-1021, votre nom complet. That's it, c'est tout ce que j'ai besoin. Votre nom complet au 418-971-1021 par texto. Puis on vous envoie à la cour arrière de Lévis, qui est la plus belle terrasse de la Rive-Sud. 5 à 7 pour 4 personnes, incluant des consommations. 418-971-1021 par texto. Au retour de la pause, on fait un petit tour des nouvelles. Entre autres, avec ce breaking news, on vous refait la petite histoire du candidat Michel Savard du Parti libéral du Québec, qui ne sera plus candidat finalement pour le PLQ parce qu'il se laissait un petit peu trop aller les doigts dans les dernières années sur les réseaux sociaux. Puis on va vouloir vos histoires de voisins aussi. Il y en a qui ont peut-être déménagé là, dans les dernières semaines, puis que là, ils voient qu'avec le voisin, il peut y avoir des petites problématiques. Il y en a peut-être qui ont un problème avec des voisins depuis un petit bout de temps. Je pense que c'est un sujet qui va faire réagir beaucoup. Par texto, on revient. Vous écoutez Boulevard 102.1. Vous écoutez Le Retour avec Antonine Iaccarini, Mathias Turcotte et moi-même, Max Larouche.
Le Retour. Le